Vous êtes sur RTL.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, Mounir Majoubi, porte-parole de La République En Marche, député de Paris et ancien secrétaire d'État au numérique. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, on va parler de l'hypothèse du vote par correspondance, du vote électronique que le rapport Debré propose d'envisager. Mais avant cela, quand même un mot de la proposition principale, à savoir le report des élections régionales et départementales de mars à fin juin 2021. C'est la décision qui devrait être prise, hein, puisque le gouvernement va le proposer au Parlement. Satisfait ?
Écoutez, ce qui était important pour nous, c'est que les Français puissent débattre, c'est qu'il y ait une campagne et qu'il y ait ensuite un scrutin qui soit incontestable. Maintenant, on va demander un peu l'avis de chacun des partis, mais je crois que tout le monde était assez d'accord. Nous, à La République En Marche, on est évidemment d'accord. On pense que juin, c'est un bon équilibre, c'est le bon moment, ça éloigne pas trop l'échéance, ça rapproche pas trop de la suivante, ça permet d'avoir un vrai moment avant l'été autour du débat sur les régionales et sur les départementales. Les Français, ils ont envie de débattre. Les départementales, ça vote tous les budgets sociaux. Donc ce serait bien qu'on puisse discuter. Les régionales, c'est tout ce qui va faire l'alimentation de demain, l'organisation économique, les transports de votre région. Vous avez envie de débattre. Moi, j'aurais pas eu envie de faire cette campagne-là en février-mars.
En catimini, évidemment. Alors ce rapport Debré, c'est pour la raison pour laquelle vous êtes là, suggère au gouvernement d'envisager le développement du vote par correspondance ou par Internet. Et bien sûr, en cette période de crise sanitaire, c'est que certains expriment leur intérêt pour cette solution. Alors on rappelle que le vote par correspondance a été supprimé en France en 1975 en raison des fraudes. Des fraudes, à l'époque même, qu'on disait massives. Aujourd'hui, vous y êtes tout de même favorable ?
D'abord, il faut rappeler que le scrutin majoritaire prioritaire, c'est le scrutin dans un lieu physique avec des scrutateurs, parce que c'est celui qui nous rassure le plus, avec des papiers, une urne, avec des gens issus de différents partis qui peuvent contrôler les opérations, organiser les opérations, être là quand on dépouille. Ce qui est bien avec le moment physique, c'est qu'on voit tout, on comprend tout. Ça, c'est ce qui fait qu'on a tous confiance dans le scrutin et qu'on est d'accord avec le résultat final. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est capable de reproduire tout ça en faisant un vote à distance, ou en faisant un vote numérique, ou en faisant un vote par correspondance? Moi, je crois que oui. Je crois qu'il y a des moyens de créer cette confiance, de créer cet équilibre entre les différents acteurs d'un scrutin. Mais pour ça, il faut qu'on travaille un petit peu. Parce que le vote par correspondance américain ne correspond pas au vote par correspondance qu'on avait en France avant 70.
C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ça, quand même, si on regarde aux États-Unis, alors d'un côté, c'est vrai, ça explique la très forte participation.
Ouais.
Mais de l'autre côté, on voit ce que ça donne au niveau de la contestation.
Et il y a d'autres modalités, hein, dans le vote américain. On vous fait pré-enregistrer votre signature, on contrôle et on compare vos signatures. Je ne sais pas si on aurait la même facilité en France, si tout le monde l'accepterait. C'est pour ça qu'il faut trouver des dispositifs complémentaires au scrutin principal. Le scrutin principal, il continue dans les écoles, partout sur le territoire. Et en plus, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on a déjà un scrutin complémentaire aujourd'hui, c'est la procuration. Et elle, on pourrait l'améliorer aussi. La procuration, on ne peut pas la faire 100% à distance, on ne peut pas la faire 100% numérique. Il y a toujours des petits moments de complexité. Là, on a proposé qu'une personne puisse en avoir deux. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer la participation des personnes et surtout, garder la confiance. Si les gens n'ont pas confiance, on arrête.
On parlait des régionales et des départementales reportées à fin juin. Ce scrutin, ça serait un bon scrutin pour lancer une expérimentation?
Moi, je pense qu'il faut dès maintenant proposer aux gens les différents scénarios qui existent dans le monde. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça se passe à l'étranger, qu'on rappelle comment ça se passait en France avant. Et puis, on regarde s'il y a des partis qui s'opposent radicalement ou si, finalement, il y a une confiance. Vous avez vu le sondage quand on demande aux Français est-ce que vous êtes pour ou contre le vote à distance ?
72% disent oui. 72% sont favorables. Sondage Harris Interactive paru aujourd'hui.
Je veux travailler avec ces 72-là et avec les 28 autres et qu'on se dise c'est quoi les zones de doute qui vous restent et qu'on propose et qu'on teste. Vous savez, j'étais syndicaliste pendant 10 ans. Les élections syndicales professionnelles, ça a mis du temps, mais maintenant elles sont quasiment 100% à distance et numériques. Au début, c'était hors de question pour tous les syndicats. Maintenant, ils sont tous d'accord, de l'extrême gauche jusqu'aux syndicats les plus réformistes.
Bon, vous n'avez pas été que syndicaliste, vous avez été président du Conseil national du numérique, ancien secrétaire d'État au numérique. Donc c'est aussi à lui que je pose la question. Aujourd'hui, je paye mes impôts en ligne.
Oui.
Donc qu'est-ce qui empêche, enfin, j'imagine que c'est quand même légèrement sécurisé la manière dont je paye mes impôts, ma déclaration. Qu'est-ce qui empêche que je puisse voter en ligne?
Ah oui, je vous le dis, techniquement, il n'y a rien qui l'empêche. Ce qui l'empêche, c'est les valeurs démocratiques et c'est la confiance de tous les acteurs du système. Une élection, elle est acceptable que parce que celui qui est même contre vous, le plus profondément contre vous, il accepte le résultat de l'élection de façon incontestable. Quand je suis élu parce que j'ai eu un vote majoritaire, que j'ai eu la majorité des voix, l'extrême droite, l'extrême gauche, les indépendants, qui que ce soit, ne va pas remettre en cause ce scrutin parce que tout a été réuni pour qu'il soit impossible à contester. Il faut qu'on arrive à faire la même chose avec le numérique. C'est possible. Mais pour ça, il faut donner les outils techniques à ceux qui veulent contrôler. Moi, si je vous demande de contrôler une élection, mais que j'ai qu'un clavier dans la main, vous pouvez rien contrôler. Par contre, si je vous donne les moyens, moi, l'État, par exemple, je vous donne de l'argent à chacun des partis qui doit contrôler, pour que vous ayez vous-même des techniciens que vous avez vous-même recrutés, qui ont eux-mêmes accès à la structure des bases, la façon dont c'est structuré, la façon dont c'est organisé, qu'on a une autorité indépendante qui contrôle. Là, vous voyez, c'est plein d'ingrédients que je vous propose. C'est pas du tout le travail qui est en cours, hein, c'est des exemples à l'étranger. Des ingrédients qui vont favoriser la confiance collective. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout partagée, cette confiance collective. Il faut la construire.
On voit bien aussi que ce n'est pas partagé parce qu'il y a cette proposition qui est écrite noir sur blanc dans le rapport de Bray, mais on a déjà eu un premier retour de l'exécutif, de Jean Castex. Ce n'est pas envisagé pour l'instant. Le pays n'est pas mûr aujourd'hui, on n'est pas prêt pour ça.
Il n'y a pas que le pays qui n'est pas mûr. Ceux qui le défendent, moi je le défends très fort, on n'a pas fini notre part du travail. J'ai des collègues au Sénat qui travaillent à faire des propositions, mais tant qu'on n'a pas fait cette proposition d'équilibre de la confiance dont je vous parle tout à l'heure, transparence, confiance, implication de toutes les parties prenantes, on ne l'a pas fait. Donc c'est normal que les gens ne soient pas encore convaincus. Donc laissez-nous le temps de convaincre. Moi je vais le faire activement avec tous mes collègues et on va continuer.
Est-ce que le taux de participation du deuxième tour des dernières municipales n'est pas un argument massu?
C'est un argument massu. Et si vous regardez historiquement les taux de participation régionales, c'est pas glorieux. Donc, il y a, à mon avis, grande urgence à trouver des modèles complémentaires à l'élection, mais basés sur le scrutin dans un lieu physique. C'est-à-dire que même si on vote par correspondance, même si on vote en électronique, moi, je pense qu'il faut garder ce lien avec l'école où les bulletins sont comptés.
Dans l'actualité également, Mounir Majoubi, on est le 13 novembre, hein, on est 5 ans après évidemment les attentats. Les ministres de l'Intérieur des pays de l'Union Européenne, les 27, se sont réunis. Alors, ils sont engagés à arriver à faire retirer les contenus à caractère terroriste publiés en ligne dans l'heure. Bon, c'est un engagement. Pourquoi aujourd'hui on n'y arrive pas? Et question subsidiaire, est-ce que les GAFA, par exemple, font de la résistance dans la coopération avec les services antiterroristes, par exemple pour donner leurs données?
Sur les contenus terroristes, les GAFA font de mieux en mieux. Vous savez, on dit l'heure, là c'est la fameuse golden hour, l'heure sacrée. En vrai, ce qu'on leur demande, c'est pas une heure. Hein. Dans la réalité, les services de police, quand il y a une tête décapitée, on leur demande de le supprimer dans la seconde. Et on les évalue aujourd'hui dans leur capacité à supprimer ces contenus dans la seconde ou la minute qui suit le signalement. Le problème, c'est que le temps que ce soit signalé, parfois, il se passe du temps. Et ce qu'on leur demande, c'est pas simplement de supprimer quand on leur demande. C'est aussi qu'ils mettent les moyens humains et techniques pour identifier avant que ce soit vu. Christchurch, qu'est-ce qui s'est passé ? La vidéo, elle a été diffusée en direct du massacre. Et il a fallu plusieurs dizaines de minutes pour que quelqu'un le signale et que, enfin, Facebook le déconnecte.
Donc, il n'y a pas de mauvaise volonté au nom de la liberté, hein, au nom de la liberté d'expression de la part des GAFA.
Pas sur les contenus terroristes. Par contre, si vous me demandez ce qu'ils font sur les contenus haineux, là, je vous dis qu'ils font tout pour traîner des pieds parce qu'ils ne veulent surtout pas rentrer dans cette histoire.
Un dernier mot, j'allais dire, puisque vous êtes là, Mounir Majoubi, au sujet de la chronique de François Lenglet ce matin sur RTL, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il ne vous a pas épargné. Il a repris ce que vous disiez dans votre rapport sur le e-commerce, à savoir qu'un emploi dans le e-commerce, notamment Amazon, détruirait 2 emplois dans le commerce physique. Il dit c'est faux. Donc vous allez revoir vos calculs.
Et je vais surtout demander à M. Lenglet de revoir sa méthode de lecture de mon étude. En fait, il passe toute sa chronique à parler de e-commerce. Moi, mon étude, elle n'est pas sur le e-commerce, elle est sur Amazon. Au contraire, je défends le e-commerce français, je défends les e-commerçants comme une transformation de notre économie. Et je dis que ça crée de l'emploi, je dis que c'est bon pour notre économie, mais je dis que Amazon, lui, détruit de l'emploi et n'est pas bon pour l'économie.
Et quand Amazon crée un emploi, il en détruit 2 dans le commerce physique, vous
ça,
le maintenez.
Je
ça.
Le confirme et je le maintiens. Par contre, pas comme il l'a dit et pas comme il l'a écrit, c'est pas le e-commerce qui détruit, c'est Amazon.
Bon, ben, on va passer un coup de fil à François. Merci.
Merci
beaucoup.
À vous.
Mounir Majoubi, bonne soirée. Allez, on va marquer une courte pause. Dans un instant, le rappel de l'info, le programme dont défait le monde avec Cyprien Sini. Et ensuite, on reçoit Thierry Marx.
RTL Soir.